col de ma gabardine parce qu'il commençait à brûler. J'ai respiré à m'en faire mal au poumon. Il m'a semblé que Paris sentait le propre, le pain chaud. Je me suis brusquement rendu compte que la chambre de Johnny devait sentir très mauvais, et aussi le corps de Johnny sous la couverture. Je suis entrée dans un café boire un cognac pour me laver la bouche et peut-être bien aussi la mémoire. Mon esprit revenait sans cesse sur ce qu'avait dit Johnny, sur ces choses qu'il voit, que je ne vois pas et qu'au fond je ne veux pas voir. Je me suis mise à penser à après-demain et c'était comme une assurance, comme un pont jeté entre le comptoir du bar et le futur. Le mieux, quand on est sûr de rien, c'est de se créer des devoirs en guise de flotteur. Deux ou trois jours après, j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'aller m'assurer que ce n'était pas la marquise qui procurait de la marijuana à Johnny et je suis allée à son atelier à Montparnasse. La marquise est une véritable marquise et le marquis lui envoie un fric fou, bien qu'il soit divorcé depuis un certain temps à cause de la marijuana et autres babioles. Son amitié avec Johnny date de New York, probablement de l'année où Johnny devint célèbre du soir au matin, simplement parce que quelqu'un lui avait donné la possibilité de réunir quatre ou cinq gars qui aimaient son style. Et alors, pour la première fois de sa vie, Johnny avait pu jouer comme il lui plaisait, il leur avait coupé le sifflet à tous. Depuis que Johnny est passé par le saxo alto, on ne peut plus considérer les musiciens précédents comme des génies. Il faut bien en venir à cette espèce de résignation déguisée qui s'appelle le sens historique et dire que ces musiciens ont été remarquables en leur temps. Johnny est passé par là comme une main qui tourne une page et ne peut rien. La marquise, qui a des oreilles de lièvre pour tout ce qui est musique, a toujours beaucoup admiré Johnny et son équipe. J'imagine qu'elle a dû lui donner pas mal de dollars à l'époque du Club 33, quand la majorité des critiques faisaient la fine bouche devant les enregistrements de Johnny et jugeaient son style d'après des critiques plus que pourries. C'est probablement aussi à cette époque que la marquise a commencé à coucher de temps en temps avec Johnny et à fumer avec lui. Je les ai souvent vus ensemble avant les séances d'enregistrement ou pendant les entractes des concerts, et Johnny avait l'air diablement heureux avec la marquise, bien que l'âne et les copains fussent en train de l'attendre à la maison ou dans une autre loge. Mais Johnny n'a jamais eu la moindre idée de ce que veut dire attendre, et il n'imagine pas davantage qu'on puisse l'attendre, lui. La marquise est d'une bonté échevelée. Elle comprend le monde, un peu comme les omelettes qu'elle fait dans son atelier quand ses amis se mettent à rappliquer par dizaines, une espèce d'omelette permanente où elle rajoute des tas de choses et dont elle coupe des parts à mesure qu'arrivent les copains. J'ai trouvé la marquise en compagnie de Marcel Leroy et d'Art Bougaillon. Ils étaient en train de parler avec animation des enregistrements qu'avait fait Johnny la veille au soir et ils me sont tombés dans les bras comme s'ils avaient vu apparaître un archange. La marquise m'a bécoté jusqu'à l'épuisement et les deux autres m'ont donné des tapes dans le dos comme seuls peuvent le faire un contrebassiste et un saxo-bariton. Tout ça parce qu'ils avaient appris que c'était moi le donateur du magnifique saxo avec lequel Johnny venait d'enregistrer quatre ou cinq de ses meilleures improvisations. J'envie un peu cette ressemblance qui les rapproche. J'envie Johnny, ce Johnny de l'autre côté, bien que personne ne sache ce qu'est l'autre côté. J'envie tout, sauf sa douleur naturellement. Mais même dans sa douleur, il doit y avoir déjà les prémices d'une chose qui m'est refusée. J'envie Johnny et en même temps, j'enrage qu'il se détruise en employant si mal ses dons, en accumulant stupidement folie sur folie. La marquise et moi avons parlé de la soirée de Baltimore où Johnny a eu sa première grande crise. Je l'ai regardée droit dans les yeux, je voulais être sûre qu'elle m'avait compris et qu'elle ne céderait pas cette fois. Si Johnny boit trop de cognac ou fume tant soit peu de drogue, le concert sera un échec et se l'affichera tout par terre. Paris n'est pas un casino de province et tout un public connaisseur a les yeux fixés sur Johnny. J'en ai comme un goût amer dans la bouche, une sorte de colère qui ne s'adresse pas à Johnny ou aux choses qui l'entourent, mais plutôt aux gens comme moi, la marquise et Marcel par exemple. Au fond, nous ne sommes que des égoïstes. Sous le prétexte de veiller sur Johnny, nous ne faisons que protéger l'idée que nous avons de lui. Nous nous préparons au plaisir nouveau qu'il va nous donner. Nous astiquons la statue que nous avons su découvrir et nous nous apprêtons à la défendre coûte que coûte. Il serait très mauvais pour mon livre que Johnny ait de mauvaises critiques ce soir. Art et Marcel ont besoin de Johnny pour gagner leur vie et la marquise allait donc savoir ce que la marquise trouve en Johnny en plus de son talent. Tout cela n'a rien à voir avec l'autre Johnny. Et je me demande soudain si ce n'est pas ce qu'il a voulu me dire quand il a arraché sa couverture et s'est montré nu comme un ver. Johnny sans le saxo, Johnny sans habits et sans argent, Johnny obsédé par quelque chose que sa pauvre intelligence n'arrive pas à comprendre, mais qui flotte lentement dans sa musique, caresse sa peau et le poussera peut-être à faire un bond imprévisible que nous ne comprendrons jamais. Toute la sincérité du monde ne peut compenser cette brusque révélation. Nous ne sommes que de pauvres salauds à côté d'un type comme Johnny Carter qui vient s'asseoir près de moi pour boire son cognac et me regarde d'un air abusé. Il est temps de partir à la salle Pleyel. Que la musique sonne au moins à la fin de la soirée et accomplisse une de ses plus détestables missions, celle de voiler le miroir, de nous rayer de la carte pour quelques heures. J'écrirai bien sûr demain en compte rendu du concert pour Jazzot. Mais ici, dans cette salle, avec ces notes de sténo que je griffonne sur un genou, je n'ai pas du tout envie de parler en critique. Pourquoi suis-je incapable de faire comme Johnny ? Pourquoi suis-je incapable de me jeter tête première contre un mur ? Je pose minutieusement les mots à la réalité qu'ils prétendent me décrire. Je m'abrite derrière des considérations et des doutes qui ne sont que stupides dialectiques. Car je sens cela aussi en Johnny. Il ne fuit rien. Il ne se drogue pas pour fuir, comme la majorité des drogués. Il ne joue pas du saxo pour s'abriter derrière la musique. Il ne passe pas plusieurs semaines dans les hôpitaux psychiatriques pour se mettre à l'abri de pressions qu'il est incapable de supporter. Son style même, qui est la part la plus authentique de lui-même, prouve que son art n'est pas une substitution ni une façon de se compléter. Johnny semble vouloir l'utiliser pour s'explorer lui-même, pour mordre à la réalité qui lui échappe un peu plus chaque jour. Incapable de se satisfaire, il est un éperon perpétuel, une construction infinie qui ne trouve pas son plaisir dans l'achèvement, mais dans l'exploration sans cesse reprise. Et quand Johnny se perd, comme ce soir, dans la création infiniment recommencée de sa musique, je sais très bien qu'il n'échappe à rien.